Alors ce matin, on a l'immense privilège d'avoir un tout nouveau prédicateur. En tout cas, il est tout nouveau pour nous. Je sais qu'il est prêt, il est dans les starting blocks. Et je vous demande d'encourager bien, bien fort Greg qui va nous apporter ce message sur la mission ce matin.
Merci. Bonjour à tous, à tous ceux que j'ai pas pu saluer ce matin. Alors le petit rituel technique, on va dire, est-ce que tout fonctionne ? Ouais, déjà c'est ça. On m'entend. C'est déjà une bonne chose. Alors. C'est bon ? Ah. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez bien ? Ça a été ce matin, même pendant la semaine, aller au travail, utiliser les transports avec les grèves ? Non ? Non, ça a été une mission pour beaucoup, hein. C'est vrai que chaque jour est une mission. Déjà, souvent, la mission le dimanche, c'est déjà de venir à l'église. Alors, je sais pas pour vous, mais je sais pas pourquoi ce jour-là, le dimanche, j'ai l'impression que tous les enfants ont préparé un plan le samedi soir en disant demain, on va aller à l'église, donc on va faire en sorte que papa et maman ils soient bien à fond, bien réveillés, voilà, bien calmes, la chemise toute propre, le café bien sur la table et pas sur la chemise. Ça arrive à beaucoup. Est-ce que ça vous arrive? Alors dis à ton voisin. T'as accompli la première mission de la journée, c'est d'arriver à l'église avec une chemise propre. T'as accompli la mission. Bonne nouvelle, la mission accomplie. Par contre, pas vous décourager, mais la journée n'est pas terminée, donc il va y avoir d'autres missions à accomplir. Chaque jour est une mission. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'une équipe de scientifiques qui a eu une mission un jour. Et cette mission, c'était une mission qui leur tenait vraiment à cœur. Alors, pour vous présenter un peu cette équipe de scientifiques, on pourrait dire qu'elle est composée de personnes qui pourraient ressembler à ça. Alors, j'ai mis une vieille photo, hein, parce que la nouvelle photo... Comme je savais qu'il y avait des enfants, tout ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent, surtout les anciens, là, c'est... Ah, les frères Bogdanov. Donc ça, ce sont des scientifiques. Alors eux, ils sont incollables sur tout ce qui est planète, système solaire, l'univers. Donc on pourrait dire que dans cette équipe de scientifiques, il y avait ce genre de personnes. Alors, ils pouvaient aussi, je pense, avoir ce genre aussi de personnes. Vous connaissez Einstein? Alors, qui connaît la formule E égale MC2? Qui peut me l'expliquer, là? On n'a pas de scientifique ce matin, non? Non? Bon. En tout cas, donc, ça, il devait sûrement avoir dans l'équipe la tête de la grosse tête qui était capable de résoudre beaucoup d'équations, d'énigmes, surtout au niveau des astres, les planètes qui tournent, tout ça, enfin, bon, c'est pas mon domaine. Et il pouvait aussi avoir aussi ce genre de personnes dans l'équipe. Alors, ça, c'est le scientifique. Alors, ça, c'est le scientifique. Celui qui est capable de résoudre beaucoup de formules chimiques, tout ça, là. La composition des étoiles, vous le connaissez ?
Alors, ouais. Papa,
moi non plus. Mais bon. Finalement, je vais vraiment vous présenter l'équipe scientifique dont on va parler. Ça, est-ce qu'il y en a qui les connaissent ? les rois, les mages. Donc eux, c'était des scientifiques de tout niveau. On appelle ça mage parce que ça vient de la Perse et ce mot signifie scientifique, médecin. Ça signifie aussi des personnes qui étudient tous les astres. Et donc, voilà, ça, c'est l'équipe scientifique dont on va parler ce matin. Et on les retrouve dans un passage de la Bible qui se trouve en Matthieu, chapitre 2. Alors on dit les mages, les rois mages, mais dans la parole il n'est pas écrit que c'était des rois. On suppose voilà, que ça pouvait être des rois. Mais il se trouve dans l'épître de Matthieu uniquement. Et dans le Nouveau Testament, il y a les quatre épîtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et chacun a une influence qui représente Christ. Et dans l'épître dans le livre de Matthieu, c'est vraiment le livre qui reflète Christ roi, la royauté. On va le lire ensemble. C'est bon ? Matthieu 2, tout le monde là ? Chapitre 2, verset 1. Ok ? On y va. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Alors c'est là, on parle de Hérode le Grand. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Pour le contexte de l'histoire, vous avez bien compris qu'on parle de la naissance de Jésus. Jésus est né à Bethléem. Bethléem est à côté de Jérusalem. C'est environ à 10 km. Jérusalem et Bethléem, il y a 10 km qui les séparent. Donc les mages venus d'Orient, ils suivent cette belle étoile et ils voient qu'elle s'arrête au niveau d'une ville. Donc ils arrivent à Jérusalem, c'est la capitale, et ils se disent, on vient pour découvrir le roi dont on a entendu parler. Et donc, ce qui est normal, un roi né d'une famille royale. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir le roi de l'époque, donc, qui était Hérode. Et à cette époque-là, le peuple était sous l'occupation romaine. Mais ils avaient toujours mis un roi qui s'occupait, on va dire, des affaires du peuple. C'est bon pour vous ? Le roi Hérode, donc, ayant appris cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Pareil, pour se mettre dans le contexte, le peuple juif est sous l'occupation romaine, donc ils sont vraiment soumis à un envahisseur, et là, ils entendent parler qu'il y a un roi qui est né, le Messie. Et pour les juifs, à cette époque, ils avaient eu des prophètes qui avaient annoncé qu'il allait y avoir un Messie qui allait venir libérer le peuple hébreu juif de toute oppression et qui seront un peuple victorieux. Donc eux, ils se disent, Hérode se dit, bah mince, j'ai loupé quelque chose là. Là, il y a des mages qui viennent me dire qu'il y a un roi qui est né. Est-ce que c'est le Messie qui va pouvoir venir nous délivrer de l'occupation romaine ? Alors c'est pour ça qu'il était dans l'étonnement, et même tout Jérusalem, parce qu'ils se disent, ah, on est persécuté par les Romains, et enfin, il y a quelqu'un qui va venir nous sauver, nous délivrer. Donc c'est pour ça qu'Hérode appelle tous les chefs religieux, les scribes, c'est ceux qui écrivaient la Torah, et il leur demande plus d'explications. Et là, qu'est-ce qu'ils lui disent ? À Bethléem, ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. L'image du berger qui vient faire paître ses brebis. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Alors Hérode se retrouve face à une situation, on lui apprend qu'il y a un roi qui vient de naître, donc qui est susceptible de prendre sa place, et là il se dit, oh là, effectivement, j'ai loupé un truc, mais on vient de me dire que dans les Écritures, c'était déjà annoncé. Donc comment ça se fait que tous les sacrificateurs n'ont pas vu ça? Et qu'il y a une équipe de scientifiques qui arrive et qui me disent qu'ils savent qu'il y a un roi parce qu'ils ont regardé les astres, il y a des choses qu'ils savent que nous, on ne sait pas. Alors, il se dit, bon, ils savent quelque chose que les autres ne savent pas. Je vais les venir faire venir discrètement et je vais leur demander où se trouve ce roi, parce que là, il y a une rivalité pour moi. Là, mon trône, il est sur la sellette, hein. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. La mission avait été accomplie déjà. Ils avaient sûrement dû faire des kilomètres et des kilomètres, passer des jours, des semaines, voire peut-être des mois. Et enfin, tout ce qu'ils avaient vu dans les astres, tout ce qu'ils avaient étudié, en fait, ils ont pu voir de leurs yeux et vraiment avoir la confirmation que tous leurs calculs, tout ce qu'ils avaient pu calculer et entendre et essayer de trouver des solutions pour pouvoir arriver jusqu'à là, eh ben, tout était arrivé, tout était accompli. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils arrivent et qu'ils voient le petit enfant? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On ne va pas lire la suite, mais pour la suite de l'histoire, les mages reprennent un autre chemin pour ne pas retourner voir Hérode, parce que Hérode leur avait demandé justement de leur apporter toutes ces informations que lui n'avait pas. Et pour préserver la vie de Jésus, ils ont fait un détour. Et ensuite, il est écrit que même Joseph, un ange lui a apparu et lui a révélé ces choses, qu'on voulait lui faire du mal. Et Joseph a pris, dans la nuit même, il a pris sa femme et l'enfant Jésus, et ils sont partis en Égypte. Ils ont fait un long voyage, et Dieu leur avait dit de rester en Égypte tant que le roi Hérode était en vie. C'est bon pour vous? Alors, on voit les trois acteurs principaux de cette histoire, donc celui qu'on connaît, dont on parlait là, c'était l'équipe de scientifiques, c'était les mages. Donc c'était même pas des juifs, c'est des personnes qui n'avaient même pas eu connaissance dans la Torah, de part aussi, ils n'allaient pas au temple pour écouter tous les scribes et raconter ce que les prophètes avaient dit, l'annonce de la venue du Messie. Et il y avait aussi le roi Hérode, qui lui était juif, mais qui était un roi cruel à cette époque-là. Le roi Hérode s'est quand même emparé du trône et il a fait un peu un coup d'État. C'était quelqu'un vraiment de... On dit Hérode le Grand, mais c'était Hérode le Terrible. Il voulait le pouvoir absolument. C'est pour ça que là, quand il a entendu qu'il y avait un roi, il avait un peu mal, hein. Et même durant son règne, pour pouvoir garder son trône, il a été jusqu'à tuer ses enfants et même tuer sa femme. Donc il a fait vraiment des choses atroces. Et la troisième personne de l'histoire, celle que vous connaissez surtout en ce moment, c'est Jésus, qui lui avait une mission à accomplir. Donc on voit que chacun avait une mission à accomplir. Jésus avait une mission, on va voir laquelle. Les mages avaient une mission, c'est de venir adorer et déposer les cadeaux. Et Hérode, lui, avait une mission à accomplir aussi, c'était d'empêcher que Jésus, que sa mission s'accomplisse. Ce qu'on va regarder là maintenant, c'est vraiment le plan le plus important, c'est celui de Jésus. Quel est ce plan ? C'est le plan de Dieu pour son fils Jésus. On peut lire dans ce verset qui se trouve dans Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est Noël. Hier, j'étais à un spectacle, et quand quelqu'un a dit aux enfants, « Les enfants, c'est quoi Noël ?» Alors, c'était les cadeaux, le sapin. Mais c'est vrai que des fois, on oublie la vraie nature de Noël, celle de l'arrivée de Jésus sur Terre pour accomplir une mission. Cette mission est une mission bien précise. On peut retrouver cette mission dans les cadeaux que les rois mages ont offerts à Jésus. Le premier cadeau, vous vous souvenez, c'était de l'or. Ce cadeau était une représentation de qui était Jésus. C'était un roi. À l'époque, on offrait au roi de l'or. Et donc, le plan de Jésus, c'est un roi qui vient sur terre en tant que tout petit bébé qui naît même dans une étable, mais qui est, au fond, est un roi. Et ce roi, sa mission aussi, c'est de offrir sa vie pour que tous ceux qui étaient perdus puissent avoir accès à la vie éternelle. Et ça, par le sacrifice de Jésus. Et on retrouve ce côté sacrifice dans le deuxième cadeau, qui est de l'encens. L'encens, c'était utilisé par les sacrificateurs quand ils faisaient des sacrifices, pour que quand les gens avaient péché, ils allaient voir le sacrificateur brûler l'encens avec un sacrifice et leur péché était expié. Mais Jésus est venu donner sa vie pour qu'il n'y ait plus de sacrifice. L'encens représentait le sacrifice qu'il allait donner pour que nous puissions avoir accès au Père. Et vous savez comment se finit la mission de Jésus ? Elle se finit à la croix, là où il va souffrir, là où il va être crucifié. Et on peut voir dans Marc, à un moment donné, on parle de ce troisième cadeau, de la myrrhe. C'est que Jésus, avant d'être crucifié, ils ont voulu même lui donner du vin avec de la myrrhe. Parce que la myrrhe, on l'utilisait comme un médicament pour apaiser les souffrances. Jésus a eu un plan, mais vous savez, dans la parole, il est écrit « Le disciple n'est pas moins que le maître. » Jésus avait sa mission, mais aussi Jésus nous donne ici une mission. Il a un plan pour toi. Lorsque nous acceptons Christ, nous faisons partie, comme on dit, de la famille de Dieu. Nous sommes les héritiers. Il écrit dans Romains, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc en acceptant Jésus dans nos vies, nous devenons enfants de Dieu. Et le fait d'appartenir à cette famille, ça nous donne un titre royal. Donc nous aussi, nous avons ce côté royal, comme Jésus a eu en lui offrant de l'or. On a aussi, il y a aussi le fait de, en tant que sacrificateur, on a un sacrifice. À travers nous, nous avons une mission, c'est que des personnes puissent venir à Christ et qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés. Amen. Et aussi, accomplir le plan de Dieu, c'est aussi un sacrifice, comme Jésus a souffert à la croix. On pourrait dire qu'il y a deux plans. le plan universel. Alors, le plan universel, c'est ce qu'on a pu voir durant ces dernières prédications sur qu'est-ce qu'un disciple. Vous vous rappelez ? Qu'est-ce qu'un disciple ? Aimer son prochain. Aimer son prochain par des actes. Que des âmes soient sauvées. Le plan universel pour tout disciple, c'est de grandir dans la foi. C'est faire tout ce que Jésus nous a enseigné. Vous êtes OK jusqu'à là ? Jésus veut plus que ça. Ça, c'est le plan universel. Mais je voudrais te dire ce matin que toi, chacun d'entre vous, vous avez un plan personnel. Dieu a un plan personnel pour toi. Dieu a une mission pour toi. Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. Quelque chose qu'il a préparé d'avance. La Bible déclare que même lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, Dieu avait déjà un plan prévu pour nous. Je voudrais te dire ce matin, on parle en ce moment de Noël du plan de Jésus, de la venue de Jésus. Mais je voudrais te dire que toi aussi, tu as un plan. Un plan que toi seul as. Ce plan, c'est un plan personnalisé, personnel. Alors, de nos jours, on peut personnaliser plein de choses. Je ne sais pas si pour vous, vous avez fait des cadeaux maintenant. Les cadeaux, on peut les personnaliser, écrire le nom. On peut faire vraiment, même choisir sa voiture, on peut le faire directement depuis un écran d'ordinateur. On peut choisir la couleur, voilà. C'est vraiment le fait que ça soit unique pour une personne. Ce plan, cette mission, Dieu te la confie. Alors peut-être tu ne sais pas forcément encore qu'est-ce que c'est. On a parlé il y a quelque temps des dons et des talents. Est-ce que ça parle à quelques-uns ? Oui ? Les dons et les talents, c'est ce que Dieu donne. Les dons, c'est ce que Dieu donne. Les talents, c'est déjà des choses que l'on a déjà. Bon, je ne vais pas refaire le cours dessus, mais c'est pour vous dire que vous avez quelque chose d'unique. Et cette chose d'unique, il y a une chose aussi que Dieu a mis à vous, et il veut que vous l'utilisiez pour lui. Ça soit pour aimer ton prochain, mais il va te donner un petit truc en plus qu'il n'a pas donné à l'autre. Et ce petit truc en plus qu'il a, il va te permettre que tu puisses avoir un impact encore plus fort que si c'était quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le plan personnel, si toi tu ne le prends pas, si tu ne le mets pas en action, tu risques de louper quelque chose. Et surtout qu'une personne aussi loupe quelque chose. Si vous n'avez pas encore reçu l'appel de Dieu sur ce plan, demandez-lui. Priez que le Saint-Esprit vous révèle ces choses. Vous avez aussi, vous pouvez voir vos responsables de GDC. Vous posez des questions là-dessus, allez les voir, ils vont vous aider. Une fois que tu connais ce plan, il faut le mettre en action. Alors comme Jésus, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher d'accomplir la mission. Alors ça peut être un Hérode qui est jaloux. Ça peut être un Hérode qui a peur que tu prennes sa place. Alors, qu'est-ce que pourrait être un Hérode dans nos vies de tous les jours ? Ça pourrait être des choses. Voilà. En fait, ce qui peut t'empêcher d'accomplir la mission, c'est vraiment tout ce qui va aller à l'encontre de ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Ça peut être tout simplement aussi des mauvaises habitudes. Je vais prendre un exemple. J'ai reçu la mission d'aller vraiment, j'ai un fardeau et un cœur d'aller aider les sans-abri. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi et en plus de ça, je suis quelqu'un qui aime les gens. Ça, c'est la mission que Dieu me donne. Maintenant, si le matin, je me lève et je me dis, ah oui, c'est ce soir que je dois aller, je devais aller aider des sans-abri. Mais ah oui, mais ce soir, il y a un bon film qui passe à la télé. Voilà. Ça, c'est ce genre de choses qui pourraient nous empêcher d'accomplir. Alors, je prends cet exemple, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi le manque d'assurance. Dire, ah, je suis pas capable. Ah, ça, cette mission, elle m'a été confiée, mais je me sens pas capable. C'est Dieu qui me l'a donnée, mais je crois qu'il sait pas tout, Seigneur, qu'il sait pas que moi, j'ai un peu peur d'aller voir les gens. Mais ça, non, c'est des choses qu'il faut vraiment les mettre de côté. Et c'est des choses qui peuvent nous empêcher vraiment d'accomplir ce que Dieu a pour nous. Mais il y a aussi des choses qui peuvent nous aider à accomplir la mission. Ça peut être, comme Jésus, des mages ont été envoyés et un ange leur a dit de ne pas retourner vers Hérode parce que la mission d'Hérode, c'était d'empêcher que le plan de Dieu pour son fils, Jésus, puisse s'accomplir. On a tous des rois mages dans nos vies. Je sais que pour ma part, Dieu a envoyé des rois mages, entre parenthèses, dans ma vie, pour m'aider, pour permettre que la mission qui m'avait été confiée puisse aboutir. Alors, ils ne m'ont pas offert de l'or, même si ça aurait été bienvenu, hein, mais ils m'ont apporté quelque chose. Ils m'ont apporté des outils, des paroles, ils m'ont apporté aussi des encouragements. Et ce qui a permis de pouvoir accomplir cette mission. Vous me suivez toujours? On voit aussi que quand les mages ont apporté des cadeaux, ils ont apporté de l'or. L'or, c'est symbole de royauté, mais cet or aussi a également permis à Joseph et Marie de financer le voyage pour aller en Égypte. Parce que vous, pour se rappeler le contexte aussi, c'est que ils habitaient dans une maison, un bébé venait de naître, et c'était pas évident de subvenir aux besoins, et c'était pas évident aussi de devoir de partir et devoir tout laisser sur place. Donc, heureusement, les mages avaient apporté de l'or pour pouvoir financer ce voyage jusqu'en Égypte. Alors, des fois, des personnes peuvent aussi venir nous apporter des choses. Sur le coup, on ne comprend pas pourquoi cette personne vient nous dire ça, pourquoi cette personne nous parle de ça, mais c'est des choses qui peuvent nous servir par la suite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, qu'une personne vous dise quelque chose et sur le coup, vous dites, je ne comprends pas pourquoi cette personne me dit ça. Mais quelques années plus tard, quelques jours, quelques mois, quelques semaines après, ah, je comprends pourquoi cette personne m'avait dit ça. Le fait que cette personne m'ait dit ça, ça m'a permis que face à une situation, je sache quoi faire. Je sache comment réagir afin que cette mission puisse s'accomplir. Accomplir la mission, c'est aussi, je pense, être bien entouré. Les mages sont venus à Christ. Même si Christ n'avait pas besoin de tout ça, nous avons besoin vraiment de personnes qui prennent soin de nous, qui nous aident à accomplir la mission. Je pense que vraiment, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Parce que s'entourer des mauvaises personnes peut nous empêcher justement d'être un frein pour que la mission s'accomplisse. Quand on veut, je vais prendre l'exemple d'une équipe de foot. Si une équipe de foot a un coach qui leur donne vraiment l'envie d'accomplir, à gagner un match, à s'entraîner, etc., L'équipe va être motivée, l'équipe va être préparée. Mais il y a tout un cheminement, il y a tout un entraînement. Mais si une équipe, même si les joueurs sont motivés, même si les joueurs sont compétents, si le coach va mal les orienter, va mal les guider, le match, ils ne pourront pas le remporter. Le but de la mission, c'est d'aller jusqu'au bout. La mission de Jésus, ça n'a pas été que de naître. Heureusement, il y a eu plusieurs étapes. Il est parti en Égypte. Après, quand Hérode est mort, ses parents sont revenus, donc il est revenu. Il a travaillé comme charpentier. On pense aussi que Joseph est décédé alors qu'il était encore jeune. Donc Jésus a dû prendre, on va dire entre parenthèses, le relais de l'entreprise de Joseph. Il a dû travailler, il a dû subvenir aux besoins de sa maman et de ses frères et sœurs. Et voilà, ce qui a fait que Jésus s'est préparé pendant 30 ans et a accompli sa mission que sur 3 ans. Donc on voit aussi qu'il y a une étape de préparation qui est très longue parfois pour très peu de temps de mission. Mais le temps est nécessaire pour se préparer, pour que la mission soit accomplie jusqu'au bout. Parfois, on est pressé, c'est vrai, d'accomplir la mission. On se dit, voilà, on sait de quelle est notre mission et on va mettre bouchée double vraiment pour que la mission ça arrive rapidement. Mais il est nécessaire aussi de bien se préparer. Le fait d'aller trop vite parfois peut nous empêcher de la mener à bien. Je m'explique. Il suffit qu'on se retrouve face à une situation à laquelle on n'était pas préparé. La situation va nous décourager, va même être négatif pour les personnes qui nous entourent. Alors que si l'on prend le temps de bien se préparer, de bien être formé, au moment où nous accomplirons la mission, nous serons assez solides pour pouvoir l'affronter et assez armés pour pouvoir et équipés pour pouvoir l'accomplir. Qui dit mission dit aussi, on a vu, sacrifice. Sacrifice aussi peut être un frein, parce que des fois, on n'est pas forcément prêt à faire des sacrifices. On n'est pas forcément prêt à donner de son temps. Alors c'est vrai que c'est souvent le cas, on dit j'ai pas le temps, mais je pense que des fois, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps de faire les choses. Être bien équipé nous permet d'arriver au final, à la ligne d'arrivée. Jésus a été jusqu'au bout. Et plus il se rapprochait de la ligne d'arrivée, plus ça a été difficile. Plus il se rapprochait d'accomplir la mission, et moins il avait de personnes autour de lui. À la croix, il n'y avait pas grand monde. Ses disciples, ils n'étaient pas là, il n'y avait que Jean. Mais il a été jusqu'au bout. Ce que je voudrais que tu retiennes ce matin, c'est que tu as bien compris qu'il y a la mission universelle que tous nous devons faire en tant que disciples, mais il y a une mission personnelle que Dieu a pour toi. Je veux vraiment que tu repenses à ces choses-là. La fin d'année arrive. Pense à ce qui aurait pu être un frein pour que la mission que Dieu t'a confiée ne puisse pas s'accomplir. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place et faire en sorte que, pour cette année 2019 qui arrive, 2020, même le micro me le rappelle, 2020, qu'est-ce qui pourrait t'aider à accomplir cette mission? J'ai demandé aux musiciens de venir et commencer à chanter un chant. En 2 Timothée 4:7, il est écrit, l'apôtre Paul dit, J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vraiment, dans ces moments de fête, on se rappelle vraiment la mission de Jésus, mais pour nous aussi, nous, essayer de nous rappeler ou chercher quelle est la mission que nous devons accomplir. La rétrospective de l'année, mais aussi surtout les choses que tu as, que tu as reçues au Seigneur, toutes ces choses-là, présentes.
Le seul trésor que j'ai. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Sers-toi de moi. Utilise-moi comme tu veux.